radio en direct, émissions à la demande, podcasts originaux. Découvrez l'application Radio France. Toutes vos radios en une seule application.
Bonjour, je vous propose d'écouter ou de réécouter une émission de Concordance des temps qui avait été consacrée à la nuit à Paris au XIXe siècle, le 10 avril 2004. Mon invité était Simone Delattre.
Regardez autour de vous. Le spectacle qui s'offre à vos yeux ne suffit-il pas à évoquer la majesté de Rome?
Comment il s'en va, à cette heure-là?
Oui, c'est son habitude. Toutes les nuits dehors.
À la bonne heure. Un vrai chat de gouttière, monsieur Baptiste.
Silencieux, furtif, comme un chat dans la nuit.
Il disparaît dans le monde.
Exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés. Depuis le 18 juin 1940,
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, je vais vous entraîner aujourd'hui dans les mystères de la nuit parisienne au 19e siècle. On nous dit souvent que la nuit, tous les chats sont gris, et pourtant, en réalité, rien n'est moins vrai. Ou alors, il faut parler d'une extrême variété dans les nuances de leur fourrure, selon les quartiers et selon les époques. La chaîne de télévision Paris Première aime à promener ses fidèles le soir tard parmi la diversité des quartiers de la capitale. Chacun d'entre eux se distingue par la spécificité de ses noctambules, de ses bruits et de ses lumières. Le roman de Richard Boringer, C'est beau, une ville, la nuit, puis le spectacle musical qu'il en a tiré, donnait aussi à sentir cette atmosphère particulière qui, aujourd'hui, comme à chaque moment de l'histoire, colore Paris et donne à ses habitants et à ses visiteurs le sentiment sûr d'être là et nulle part ailleurs. Simone Delattre, professeure en Cagne au lycée Fénelon, mon invitée ce matin, est l'auteur d'un beau livre récent, préfacé par Alain Corbin, est consacrée à ce qu'elle appelle les 12 heures noires dans le Paris du 19e siècle. Les 12 heures noires, l'expression est de Victor Hugo dans Les Misérables. Nous allons la suivre dans son exploration, tout à la fois élégante et gourmande, pour comprendre comment s'organiser en ce temps-là, était-ce comme aujourd'hui, était-ce autrement, comment s'organisait la séparation entre le monde diurne et le monde nocturne. Plaisir et angoisse, surveillance et liberté, charivari et silence. Bienvenue dans cette errance.
En tout lieu la foule par torrent s'écoule, l'un court, l'autre roule, le jour baisse et fuit. Les affaires cessent, les tables se dressent, les dîners se pressent, il est bientôt nuit. Là je devine poulard de fine et bécassine et dindon truffé. Plus loin je hume salé légumes, cuit dans l'écume d'un bœuf réchauffé. Les journaux se lisent, les liqueurs s'épuisent, les jeux s'organisent, et l'habitué, le nez sur sa canne, approuve ou condamne, défend ou chicane, chaque coup joué. La tragédie, la comédie, la parodie, les escamoteurs, jusqu'au drame et mélodrame, attend, réclame, l'or des amateurs. Jeannot, Claude Blaise, Nicolas, Nicaise, tous cinq de falaise récemment sortis, élevant la face et cloué sur place, devant un paillasse, s'amuse gratis. La jeune fille, laissant l'aiguille, rejoint son drieux au bal de Luquet. Et sa grand-mère, chez sa commère, va coudre et faire son sang de piquet. 10 heures sonnées, des pièces jouées, 3 sont condamnées et se laissent choir. Leurs spectateurs sortent, se poussent, se portent heureux s'ils rapportent et montrent et mouchoirs. Saint-Jean, la flèche, qu'on se dépêche, notre calèche, mon cabriolet, et la livrée, quoique enivrée, plus altérée, sort du cabaret. Les carrosses viennent, s'ouvrent et reprennent leur maître qu'ils mènent en se succédant. Et d'une voix âcre, le cocher de fiacre peste, juré, sacre, en rétrogradant. Quel tintamarre, quelle bagarre, au cri de gare, cent fois répété, vite on traverse, on se renverse, on se disperse de tous les côtés. La sœur perd son frère, la fille perd son père, le garçon, sa mère, qui perd son mari. Mais un galant passe, s'avance avec grâce et s'offre à la place de l'époux chéri. Plus loin des belles, fort peu rebelles, par ribambelle errant à l'écart, ont doux visage, gentil corsage, mais je suis sage, d'ailleurs il est tard. Par longs intervalles, quelques lampes pâles, faibles, inégales, m'éclairent encore. Leur feu m'abandonne, l'ombre m'environne, le vent seul résonne. Silence, tout dort.
Simone Delattre, bonjour. Nous avons commencé cette conversation avec une chanson célèbre de Désaugiers qui remonte à l'époque de la monarchie de Juillet, au début de la monarchie de Juillet, vers 1830. Paris à 5 heures du soir. J'ai souhaité du même coup rendre hommage à celui qui l'interprète, en l'occurrence c'est Philippe Meyer. J'ai envie de vous demander si ce que dit Corbin sur votre livre en introduction, en parlant d'un objet maléfique et somptueux, cette nuit du 19e siècle, ça vous paraît un qualificatif adapté ?
Oui, et d'autant plus adapté rétrospectivement, parce que je suis toujours sous l'effet des années après de ces deux qualificatifs. Il peut le dire avec d'autant plus de légitimité que c'est son idée, que c'est lui qui m'a proposé cet objet maléfique et somptueux. Cela dit, j'ai aussi essayé, en avançant dans ce qui a été à l'époque une longue recherche, j'ai aussi essayé de ne pas me laisser complètement ensorceler, justement, et d'accéder à une nuit plus ordinaire, qui peut être la nuit des chiffonniers, qui peut être la nuit des vidangeurs, qui peut être la nuit du rôdeur de nuit, qui lui peut la vivre de manière tout à fait ordinaire, même si de l'extérieur on le perçoit comme un être menaçant.
Oui, ordinaire si vous voulez, oui.
Si le travail du chiffonnier est quotidien et nocturne, mais quand même, je crois, vécu par lui comme très quotidien.
Le rôdeur aussi.
Du rôdeur aussi, oui, éventuellement. Le rôdeur, c'est toujours une qualification extérieure, ça peut être un simple promeneur. Donc, maléfique et somptueux, oui, c'était très frappant. Au début, j'ai essayé de normaliser un petit peu les choses au fur et à mesure que j'avançais, de ne pas me laisser prendre complètement aux stéréotypes qui sont aussi ceux de l'époque, c'est-à-dire nuit criminelle, nuit festive et nuit de contraste exclusivement.
Classe laborieuse, classe dangereuse,
oui,
comme disait Louis Chevalier.
Oui. Louis Chevalier a été statut du commandeur pour moi tout au long de ce travail. Oui.
Vous êtes sorti donc indemne de ces longues promenades dans le Paris nocturne du 19e siècle.
Oui, j'espère. J'espère. Maintenant que la nuit est d'ailleurs institutionnalisée sous la forme d'une nuit blanche, je crois qu'on peut en sortir indemne.
Pour faire entendre à nos auditeurs non seulement la réalité de ce 19e siècle, mais la manière dont il a pu être rêvé plus tard. Je voudrais vous offrir un extrait de « Les Enfants du Paradis » 1943. La manière dont Jacques Prévert et Marcel Carnet ont vu ce Paris nocturne de la monarchie de Juillet. J'ai choisi un extrait pour vous.
Alors, bonne nuit, Frédéric. Bonne nuit aussi, Madame Hermine.
Comment il s'en va, à cette heure-là ?
Oui, c'est son habitude. Toutes les nuits dehors.
Un bonheur. Un vrai chat de gouttière, monsieur Baptiste.
Silencieux, furtif, comme un chat dans la nuit.
Il disparaît dans l'ombre où l'amour le conduit. Près de celle qu'il aime. Sa beauté, son plaisir. Son amie seule et nue, tremblante de désir.
Oh, c'est beau, monsieur Frédéric.
Hein?
Et puis c'est un peu...
Un peu.
Oh, monsieur Frédéric, vous allez me faire dire des bêtises. Passez, je vous en prie.
Après-vous.
Ayez pitié d'un pauvre aveugle.
Pourquoi marchez-vous sur la pointe des pieds? Pourquoi, hein? Pour m'éviter? Pour rien me donner?
Parce que je n'ai pas d'argent.
Pas d'argent? T'entends ça, l'oiseau? Vraiment, il y a de quoi rire. Il y a tant de gens qui se promènent avec les poches bien garnies. Et c'est si facile à prendre l'argent dans les poches quand on voit clair.
Peut-être, mais ce n'est pas mon métier.
Son métier? T'entends ça, l'oiseau?
Vous permettez que je vous tienne un instant, compagnie? J'ai beaucoup marché et je suis un peu fatigué.
Tout de même, je voudrais bien savoir pourquoi vous traînez vos guettes comme ça la nuit.
Pour voir.
Pour voir? T'entends ça, l'oiseau? Pour voir quoi, je vous le demande.
Tout.
Ouh, minute. T'es trop gourmand, toi, trop curieux. Et dis donc, le baladeur, ton métier, ça serait pas de...
Oh non, non, rassurez-vous.
Oh, c'est pour que ça nous inquiète. Mais les mouches, on n'aime pas ça, l'oiseau et moi. Alors, qu'est-ce que tu fais, hein? On peut savoir?
Je travaille au funambule.
Au funambule? Tu vends des oranges?
Non, je joue.
Tu joues?
On a reconnu la voix de Jean-Louis Barrault dans le rôle de Baptiste. De Pierre Brasseur, Frédéric Lemaître. On a raison de dire qu'à la radio, les images sont plus belles encore. En tout cas, on voit ressurgir ce film, n'est-ce pas, Simone Delattre?
Oui, et ça m'a replongé dans les débuts de mon propre travail. Parce qu'évidemment, comme tout un chacun, quand j'ai commencé à réfléchir à la nuit parisienne du 19e siècle, j'avais même référence que tout le monde en tête, c'est-à-dire d'une part les Mystères de Paris, d'autre part les Misérables, c'est-à-dire deux grandes sagas nocturnes du 19e siècle. Et puis j'avais tendance à voir un peu le boulevard du crime, donc bien sûr à travers les souvenirs des Enfants du Paradis.
C'est le titre d'un des deux épisodes des Enfants du Paradis.
Ouais. Et là, on a un extrait qui est très riche parce qu'il y a toute l'hésitation du regard du 19e dont hérite sans doute encore les gens de l'entre-deux-guerres et des années 40 autour de la figure du rôdeur de nuit, c'est-à-dire celui qui sort sans but très clair.
Inquiétant.
Inquiétant, oui, et en même temps, je ne sais pas si Prévert et Carnet en avaient conscience, mais la figure du voyant aveugle, en fait, c'est une vieille tradition depuis les Nuits de Paris de Rétif de la Bretonne, en réalité. Il y a tout un pittoresque nocturne parisien qui a traversé, ce très très long 19e siècle qui irait de la fin du 18e jusqu'aux années 30, 40, manifestement.
On trouve déjà dans Rétif le thème de l'aveugle qui voit plus loin que ce qu'il
voit. Si mes souvenirs sont bons, il croise dans ses pérégrinations, le narrateur croise un aveugle qui lui raconte des choses que personne n'a vues, et ça intègre assez rapidement les stéréotypes de la description nocturne dans la production descriptive qui sera celle du 19e siècle. On a abondance de tableaux de Paris, de nuits de Paris, de réflexes de dévoilement des dessous, dans des textes qui sont toujours à la limite entre la fiction et quelque chose qui se voudrait plus réaliste.
Entre le nocturne et le diurne, il y a aussi une opposition sociologique. Il y a tout ce monde de la petite bourgeoisie, celle qui est caricaturée par Daumier et par d'autres, qui, à partir du moment où le crépuscule survient, où la nuit, avec ses menaces, commence à envelopper la ville, a tendance à se calfeutrer.
Alors, dans ce domaine, il y a peut-être, dans ce que j'ai pu en percevoir, des effets de source, parce que ça fait aussi partie des stéréotypes du temps de décrire le bourgeois comme un être particulièrement diurne, en particulier, enfin, bourgeois, il faut distinguer les milieux intermédiaires, de la petite bourgeoisie rentière, du marais, par exemple, qui à l'époque n'est pas le lieu à la mode qu'il deviendra au cours du second XXe siècle, mais qui est plutôt un coin de province dans Paris.
Vieillot.
Voilà, vieillot, où on décrit donc très ironiquement les soirées du marais qui sont en fait des soirées ça c'est plutôt des thèmes du premier 19e siècle, des soirées qui seraient très ternes, qui se termineraient très tôt,
dîner 6h du soir, voilà. Ensuite soirée confinée, ennuyeuse,
voilà, on s'en tiendrait à de mornes conversations, des parties de cartes et à 10h tout le monde serait couché,
lecture d'un journal Juste Milieu naturellement,
exactement,
pot à tabac, présence discrète, oui, de l'épouse, ça... promesse de la robe de chambre, du lit, oui, réchauffé par la bouillotte.
En fait, sous la monarchie de Juillet, ça intègre une critique politique plus sous-jacente contre le roi bourgeois lui-même et son côté peut-être bonnet de nuit, dans les versions les plus indulgentes. Il y a cette omniprésence de ce lieu commun dans les sources. On décrit en effet beaucoup la nuit comme une terre de contraste sociologique très accusé, c'est-à-dire les bas-fonds et la société la plus brillante qui se télescoperait dans un Paris déserté par les gens ordinaires. Je crois que c'est quand même un phénomène en cours d'atténuation au fur et à mesure justement que on apprivoise la nuit au cours du 19e siècle et que petit à petit les classes moyennes, une bourgeoisie plus prudente auparavant grignote petit à petit la soirée, prend l'habitude de fréquenter, puisque c'est de ça qu'il s'agit surtout, de fréquenter l'espace public à mesure que celui-ci se clarifie progressivement. Mais dans les habitudes mentales héritées de l'Ancien Régime, il y a ces représentations, c'est certain.
Il y a un personnage qui incarne cette coupure entre la sagesse un peu pusillanime du bourgeois qui se claquemure, et puis d'autre part, ceux qui, de façon un peu incertaine, inquiétante, profite de la richesse de la nuit. Il y a un personnage qui est à la rencontre, c'est le portier, le concierge, qui fait partie de cette réalité ou de cette mythologie du 19e siècle, Simone Delattre.
Oui, c'est-à-dire que, bien entendu, en l'absence de digicode et d'interphone, c'est lui qui fait le sas entre l'intérieur et l'extérieur, et qu'on est très vigilant à l'époque sur, justement, les phénomènes de clôture entre le public et le privé, que le 19e siècle sacralise beaucoup, on le sait. Et donc... là aussi, dans les caricatures de Daumier, qui est une source
inépuisable,
très foisonnante pour toute cette période, il y a cette figure du portier...
un bonnet de nuit.
Voilà, forcément aussi, porteur d'un bonnet de nuit, du côté des diurnes, et parce qu'on décrit aussi beaucoup les choses au XIXe siècle en classifiant un peu comme on le ferait en naturaliste. Et donc, dans cette espèce diurne que constituerait l'espèce des portiers, il y a l'idée d'une clôture nécessaire entre l'intérieur et l'extérieur des immeubles, c'est évident. Et donc aussi, chez Daumier, la caricature du portier qui ronchonne quand on vient le déranger en période de carnaval, puisqu'on tire le cordon pour pouvoir entrer, et qu'en période de carnaval...
Cordon s'il vous plaît.
Voilà. Et qu'en période de carnaval, donc pendant plusieurs semaines, il a de lourds problèmes d'insomnie.
Le code pénal, dans son article 479, réprime le tapage nocturne.
Oui, je n'ai pas eu l'impression que ça donne lieu à beaucoup d'applications concrètes dans le Paris du 19e siècle. Plutôt... sans doute les litiges se règlent-ils sans recours à la justice, ce qui fait que ça, comme beaucoup de choses à l'époque par ailleurs, mais ce qui fait que ça ne laisse pas beaucoup de traces dans les sources dont on pourrait disposer. Les cas de conflits autour du tapage nocturne dans les quartiers populaires sont quasiment insaisissables, parce que ça doit en effet se régler entre soi.
À coup de poing ou à coup de...
À coup de poing ou plus verbalement, ou plutôt je pense que le seuil de tolérance est très différent d'une autre et que on sait bien que... on a à être gêné le matin par les cris de Paris et que ça fait partie d'une norme. C'est vrai qu'en revanche, dans les quartiers des élites qui s'isolent de plus en plus du monde populaire au fur et à mesure qu'on avance dans le siècle, on a des formes de protestation précisément contre la précocité le matin de ces cris de Paris dans la rue, ou même contre la sonnerie des cloches dans les couvents voisins. Il est vrai que pour l'habitat aristocratique, on est quand même largement protégé par la disposition de l'hôtel particulier et l'intermédiaire que forme la cour.
En retrait, on a l'impression qu'en fait la protection contre les bruits devient assez vite sociologique.
Oui, c'est ça. C'est
géographique.
C'est plutôt une forme de cordon sanitaire qui s'installe qu'un recours systématique à l'intermédiaire.
Pourtant, on voit au long du siècle les autorités, particulièrement les préfets, s'efforcer de réprimer le bruit nocturne. Le 13 décembre 44, vous citez cette circulaire du préfet de Le Serre qui explique que des plaintes fondées m'arrivent journellement sur la composition actuelle des orchestres des bals publics qui, par l'usage d'instruments bruyants, surexcitent et poussent au désordre les personnes qui prennent part aux danses en même temps qu'ils troublent le repos du voisinage. Et on voit être interdit le tambour, la grosse caisse, les cymbales, le tam-tam des cloches, les cors de chasse.
Précédemment, on avait plutôt tendance à interdire les bruits du travail, qui étaient quelquefois trop matinaux, les bruits de marteaux, ce genre de choses.
On trouve déjà ça dans Boileau, à vrai dire.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais le propre du 19e siècle, c'est d'être pris dans des logiques contradictoires entre, d'une part, l'affirmation d'un droit bourgeois au repos, et puis des logiques nouvelles de festivité, de normalisation du noctambulisme, qui font que petit à petit, au cours du siècle, le préfet de police aura de plus en plus tendance à vouloir, comme ce sera toujours le cas ensuite, j'imagine, isoler la festivité nocturne incompressible, en quelque sorte, dans des quartiers, dans des lieux spécialisés. On va la traiter comme une sorte de mal nécessaire qu'il faut circonscrire et traiter un peu comme on traite la prostitution, d'ailleurs, d'un autre point de vue.
Il y a un sujet d'intérêt, c'est la question de l'ouverture ou non des établissements publics, entre la vigilance des autorités et une certaine tolérance. Alors nous allons commencer de nous promener dans Paris, et pour le faire, comment mieux choisir que Fargue, le piéton de Paris, même s'il est évidemment postérieur à votre période, il est du XXe siècle. Voyons Fargue tel qu'il est évoqué par le grand photographe Brassailles en juillet 1961 à la radio. Il est interrogé par Claudine Chenez.
Page, lettres et spectacles, Jean Bouvier.
Oui, Brassailles, le célèbre photographe, vient d'illustrer en grande partie le livre que réédite au Club du Libraire un piéton de Paris du grand poète Léon-Paul Fargue, mort voici une douzaine d'années. Claudine Chenez a rencontré Brassailles. Eh bien, je lui cède tout de suite l'antenne.
Brassailles, j'ai été très frappé de voir que les photos qui illustrent ce livre sont presque toutes des photos de Paris la nuit.
Oui, vous savez, c'est par amour de la nuit, moi-même, que je suis devenu photographe. Et j'étais un noctambule. Et j'ai connu Fargue un jour au Grand Écart, la boîte de Moïsès, et il était assis comme un des deux magots, rêveur, avec des yeux un peu globuleux, poétiques. Et puis alors, après, on revu un Minotaure, à l'époque où j'ai fait mes photos.
Dans la revue, le Minotaure.
Et quand il a vu mes photos, il m'a suggéré d'aller avec lui, n'est-ce pas, dans ces quartiers qu'il adorait, à Belleville, n'est-ce pas, au canal oui. Saint-Martin, à Port-de-Lilas. Oui.
Et le jour ne l'intéressait pas, n'est-ce
pas ? Le jour, il dormait d'habitude, n'est-ce pas ? Et
tandis que le soir ?
Le soir, oui, il partait avec son taxi, n'est-ce pas ? Et puis, il m'a amené à Belleville, je me rappelle, dans le brouillard, et il m'a donné des choses, des indications très intéressantes sur ces quartiers qu'il connaissait à fond. Un jour, j'ai rencontré même par hasard, j'étais un jour au Butchemont, et dans un bistrot, le soir, j'ai rencontré Fargue. Alors, j'étais très étonné, il était d'ailleurs aussi assez étonné de me trouver là. Et alors, il m'a dit, n'est-ce pas, quelle ville, quel voyage, on voyage. C'était pour lui comme s'il parcourait le monde.
Léon-Paul Fargue, le piéton de Paris évoqué par Brassailles. Simone Delattre, il y a des ancêtres de Fargue déjà au XIXe siècle, c'est déjà des piétons de Paris qui racontent leurs impressions.
Oui, en abondance, il y a une ligne qui mène dans le domaine du noctambulisme littéraire. Il y a une ligne qui mène du romantisme au surréalisme, qui est, si mes souvenirs sont bons, d'ailleurs une ligne consciente chez Fargue. Oui, l'idée que la ville nocturne révèle son âme, en particulier son âme populaire. Là, ce sera peut-être plus une réflexion des années 1930 que de ma période à moi. Mais l'idée que la ville dévoile sa vérité à une élite d'observateurs, là aussi extra-lucides, c'est quelque chose qui commence à se dessiner. Bon, il est vrai aussi en continuité avec Rétif de la Bretonne. Dans les années 1830, il y a même un groupe d'écrivains qui gravitent entre le boulevard, les Halles. C'est plutôt rive droite, hein, à l'époque. C'est pas Montparnasse du tout.
Qui citeriez-vous ?
Alors, il y a déjà un groupe d'écrivains qui s'auto-intitule les Noctambules, comme on donnerait un nom à un groupe de rock dans les années 1830, avec peu de noms retenus par la postérité en réalité. Mais bon, en fait, déjà le jeune Nerval parmi eux.
Qui est d'ailleurs mort dans la rue
voilà,
au moment de son suicide.
Des gens comme Privat d'Anglemont, ensuite. Des amateurs du pittoresque parisien, si vous voulez. Et c'est vrai que Nerval est devenu un emblème pour eux. Sa mort elle-même intègre la légende nocturne du Paris du XIXe siècle, puisqu'il meurt au moment où il préparait un grand livre sur le noctambulisme. D'ailleurs, j'ai beaucoup regretté que ça reste inachevé. En 1855, par une lugubre nuit d'hiver, il se suicide, ou enfin oui, on pense qu'il se suicide, même s'il y a eu des versions divergentes à l'époque, peut-être assassiné par des rôdeurs de nuit. Là aussi, ça intègre la légende. Rue de la Vieille Lanterne, qui est une vieille rue qui est proche de l'actuelle place du Châtelet, qui a été détruite par l'osmanisation. Et donc, à tous ces égards, la mort de Nerval devient un symbole. On dit que c'est la nuit de Paris qui l'a tué, conjugué à ses désordres psychiatriques. Et en plus, il devient le symbole d'un Paris qui s'en va, puisque c'est au seuil de l'osmanisation, c'est-à-dire d'un travail urbanistique qui va rendre la ville nocturne plus rationnelle, plus saine. Donc c'est vrai que ça a été un passeur tout à fait décisif pour moi, que la figure de Nerval, de même que celle du chiffonnier, pour d'autres raisons.
Un suicide métaphorique.
Voilà.
Brassailles évoque Fargue dans ses cafés. C'est un débat intéressant à suivre que celui qui concerne l'heure de fermeture des établissements au 19e siècle. On retrouve aujourd'hui souvent des débats du même genre, d'ailleurs. Moindrement, mais enfin...
C'est un débat continu tout au long du 19e siècle. Alors, il faut bien avoir conscience qu'à l'époque, on a affaire à l'heure solaire. On n'a pas le décalage qui nous est familier de 2 heures et 1 heure en fonction des réajustements liés aux soucis d'économie d'énergie.
Pas de changement d'heure.
Voilà, quand on parle de minuit, c'est pas forcément notre minuit à nous. Mais la signification, là aussi symbolique, du mot même de minuit, en revanche, elle est comparable. Donc... Bon, en effet, les heures de fermeture, c'est un sujet de polémique permanent, avec des règles qui varient. 11 heures pour l'essentiel, pour les cafés, du moins des quartiers ordinaires, pour l'essentiel du 19e siècle. Mais des phénomènes de tolérance ponctuels ou géographiquement sélectifs. Les établissements, alors, là aussi, bon, je vous épargne les détails, mais les établissements du quartier des Halles ont droit à une ouverture nocturne complète toute la nuit, non pas pour théoriquement accueillir les noctambules, mais pour servir de refuge à la population de la Halle. Et puis, un petit peu plus tard, on aura des heures plus tardives possibles dans le quartier latin, par exemple. Mais la règle, c'est plutôt 11h minuit. Hein, l'effet Cendrillon, si vous voulez, est encore très faisant pendant toute la période que j'ai traitée, c'est-à-dire jusqu'à la fin du Second Empire, en tout cas.
Avec plus de tolérance, justement, à la fin du Second Empire, nous dites-vous. Et vous citiez Nerval tout à l'heure, il est mort déjà à ce moment-là, mais on pourrait citer sa remarque qui est la suivante. « Si j'étais préfet de police, au lieu de faire fermer les boutiques, les théâtres, les cafés et les restaurants à minuit, je paierais une prime à ceux qui resteraient ouverts jusqu'au matin. » Car enfin, je ne crois pas que la police ait jamais favorisé les voleurs, mais il semble, d'après ses dispositions, qu'elle leur livre la ville sans défense. Mm-hmm. Il dit que, d'autre part, Nerval ajoute qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent le soir. Les imprimeurs, les acteurs, les critiques, les machinistes, les allumeurs.
Et en fait, c'est vrai qu'il y a plusieurs nuits. Il y a la nuit d'avant minuit et une deuxième nuit où la ville se résumerait à la rue, effectivement, dans son activité, dans sa vie collective, de manière constante dans les quartiers populaires. On sait que beaucoup de débits de boissons, de tapis francs, comme on en évoquait tout à l'heure dans l'extrait des Enfants du Paradis, sont officiellement fermés et officieusement pleins d'activités derrière la porte, et que quand la force publique veut y faire une intrusion, elle se fait recevoir à coups d'objets en tout genre. Donc il y a aussi une espèce de tolérance de fait qui existe pour une fréquentation plus tardive.
On pourrait esquisser une géographie de la fièvre nocturne. Et à l'époque, la rive gauche, surprenant pour nous, est à peu près exclue, comme la cité, comme l'île Saint-Louis.
Alors, en vertu des souvenirs de l'Ancien Régime, il y a le problème du péage sur les ponts qui peut expliquer une partie de cette atonie. Bon, ça reflète simplement aussi le niveau d'activité de ces deux parties de Paris à l'époque, diurne comme nocturne. Oui, alors effectivement, du côté de la rive gauche, pas grand-chose en matière de festivité, mais du côté de la barrière du Maine, il y a des grands restaurants populaires quand même qui commencent à avoir une réputation.
On s'ennuie rudement du côté de la rue Mouffetard, du boulevard Saint-Germain.
Alors du côté du boulevard Saint-Germain,
il y a
toujours la possibilité de grandes fêtes privées dans le noble faubourg. Rue Mouffetard, c'est pas tellement qu'on s'ennuie, c'est qu'on est entre chiffonniers et qu'on craint plutôt des contaminations quand on vient de l'extérieur. On pense à la grande épidémie de choléra de 1832. Donc il y a des tapis francs spécialisés pour cette population particulière. Mais le noctambulisme du 19e siècle, c'est très clairement un noctambulisme de la rive droite, qui est d'abord un noctambulisme du Palais Royal. On aurait peut-être de la peine à l'imaginer aujourd'hui en s'y promenant. Qui offre l'intérêt d'être mi-clos, mi-ouvert, donc de correspondre à une ville qui est encore un petit peu introvertie au début du siècle.
On peut assez bien dater d'ailleurs le moment où le Palais Royal, qui avait été tellement vivant au moment de la Révolution, tellement vivant sous la monarchie censitaire après la Restauration, est brusquement rejeté dans cette situation triste ou nette que nous connaissons aujourd'hui. C'est le fait d'une décision publique.
C'est pas forcément lié à une décision venue d'en haut, c'est plutôt que le boulevard émerge, qu'on peut s'y rendre par les passages, justement, dont la construction date pour l'essentiel de la Restauration et des débuts de la monarchie de Juillet. Et donc la purification légale, d'ailleurs très théorique en réalité, comme souvent du Palais Royal.
On expulse souvent les prostituées, on ferme les cercles de jeux qui sont là, non ?
Oui, mais les prostituées, ils sont revenus assez vite. Et je crois que ça venait après un glissement antérieur, déjà, du centre d'attractivité du noctambulisme vers le boulevard. Je pense que les gens cherchaient aussi des endroits avec plus de circulation, plus d'aération, et que la loi n'a fait peut-être que entériner une désaffection un petit peu plus ancienne. Bon.
Alors les passages, vous parliez des passages qui ont été si chers ensuite à Benjamin.
Alors, les passages, ça ne vaut que pour la soirée, hein, parce que leur grille ferme passé 22 heures. Enfin, là aussi, la législation est mouvante. Mais enfin, ça permet cette espèce de, malgré tout, de translation du Palais Royal vers le Grand Boulevard, les Grands Boulevards. Bon, c'est aussi un lieu intermédiaire public-privé, mais qui ne vaut que pour la soirée. Et on voit très bien se dessiner, tout de même, dans les années 1830-1840, l'explosion des Grands Boulevards, c'est-à-dire la ligne Madeleine-Bastille, en particulier dans sa partie occidentale, qui est la plus chic.
Avec un omnibus.
À l'époque, oui, avec le fameux omnibus, c'est la première ligne.
Mais seulement jusqu'à 11h du soir.
Voilà, même chose. C'est
première coupure.
C'est un recours limité dans la soirée. Mais le boulevard émerge, et je crois que ça correspond à des nouvelles sensibilités, plus extraverties et plus soucieuses de prolonger la soirée aussi. Et donc ça va se matérialiser par le développement des grandes terrasses, des grands cafés sur ce même boulevard, et tout le commentaire vraiment très proliférant que les écrivains du temps, les polygraphes en tout genre livrent au sujet de ce lieu qui est aussi un lieu d'observation de la vie parisienne et du tempo parisien pour eux.
Avec le sentiment qu'on éprouve d'une coupure de plus en plus marquée entre les quartiers populaires où la fête est spécifique et les quartiers qui sont ceux soit des classes favorisées, soit de ceux qui s'amusent à les mimer. On ne pourrait pas faire cette émission Simone Delatte sans faire entendre bien sûr la vie parisienne d'Offenbach avec le fameux couplet de Mettez-la quand il est minuit pour les fêtards.
C'est ici l'endroit redouté des mères, l'endroit effroyable où les fils mineurs font sauter l'argent gagné par leur père et rognent la dot promise à leur sort. Minuit sonne, écoutez, croyez et profitez. À minuit sonnant commence la fête, ma coupe s'arrête, on en voit sortir de jolis messieurs, des femmes charmantes qui viennent pimpantes pour se divertir. La fleur du panier, des brunes, des blondes et bien entendu des rousses aussi. Les jolis messieurs sont de tous les mondes, c'est un peu mêlé tout ce qu'on trouve ici. Oui, tout cela s'anime et se met en joie, froufrou de la soie le long des couloirs. C'est l'adagio de la bacchanale et dont l'envoi brutal gronde tous les soirs. Rires éclatants, fracas du champagne, on cartonne ici, on danse la boue, et le piano qui grince accompagne sur des airs connus d'étranges ébats. Le bruit monte, monte et devient tempête, la jeunesse en fête chante à plein gosier, et ceux du plaisir ou de la furie se taire. La gaieté s'en va, petit à petit. L'un dort tout debout, l'autre dort par terre. Et voilà comment la fête finit. Quand vient le matin, quand paraît l'aurore, on en trouve encore, mais plus de gaieté. Les joyeux viveurs sont mal à leur aise, et dans le grand seize, on voudrait du thé. Ils s'en vont enfin, la mine blafarde, ivre de champagne et de faux amours, et le balayeur s'arrête et regarde, et leur cri, ohé, les heureux du jour, ohé, 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 les heureux du jour.
C'était Suzy Delaire qui interprétait le fameux rondeau de Metella de La vie parisienne d'Offenbach dans la présentation qu'on avait donnée voici plus de 40 ans, la compagnie Renaud Barrault. On voit bien la montée du plaisir collectif, le bruit monte et devient tempête, la jeunesse en fête chante à plein gosier, puis la retombée, le moment où les viveurs s'en vont, la mine blafarde, ivre de champagne et de faux amours, et le balayeur s'arrête et regarde et leur crie « Ohé, les heureux du jour !» Alors, Simone de Lattre, il y a là, face à face, comme l'incarnation métaphorique de l'affrontement de deux classes, on peut dire ça ?
Oui, mais ça, c'est un vieux leitmotiv qu'on trouve déjà dans la production descriptive, dans la littérature du premier 19e siècle, le choc des, non pas des civilisations, mais des mondes.
Que reprennent Meillac et Lévy, les librettistes de La vie parisienne.
Le contraste est accusé par le fait que, à l'aube, sous les masques, le visage des viveurs est violet ou bleu ou livide, mais là, pour cause de choléra qui est en train de montrer ses premiers ravages. La place du Second Empire dans la vie nocturne du 19e siècle, ça correspond un peu à ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire la montée, l'idée d'apogée. On a, sous le Second Empire, c'était évidemment très intéressant pour moi, un phénomène de superposition, d'identification, conscient pour les contemporains, entre vie nocturne et vie parisienne, mais évidemment c'est très sélectif socialement. Si on considère que Napoléon III essaie de séparer les bons et les méchants, et que l'haussmannisation travaille aussi dans ce sens, le Second Empire, c'est le retour dans l'espace public d'élites qui peut-être y craignaient davantage de promiscuité, en particulier nocturne précédemment, et l'hédonisme tapageur de noctambules, de viveurs, de jouisseurs qui consomment du plaisir nocturne sans complexe.
Paris en plus, est une fête, pour reprendre l'expression ultérieure du livre fameux de Hemingway.
On revient à l'ambiance de la Régence, on revient peut-être à l'ambiance du Directoire, mais avec une dimension nouvelle. Et là, la vie parisienne, en plus, bon, le titre le dit assez clairement, ce sont des noctambules qui viennent entendre l'hymne à l'apogée de la vie nocturne, mise en abîme, qui caractérise l'époque. C'est aussi, on le sait bien, un thème de moquerie et de contestation forte ensuite pour les républicains, que ce Paris du Second Empire, grande alcôve immorale.
Très puritain, les premiers républicains.
Oui, peut-être même ensuite encore. l'idée que Paris est devenue cette grande alcôve où la spéculation s'affiche le soir, la nuit, sans plus de complexe.
Et le Paris de Morny, le Paris de Nana.
Puis la légende noire des sorties nocturnes de l'empereur lui-même, sur fond de séparation entre les riches et les pauvres.
Il y a un endroit tout de même où ces riches et ces pauvres se rejoignent, c'est aux Halles.
Oui.
Aux Halles qui sont depuis longtemps situées au cœur de Paris, qui sont ensuite rénovées avec les Halles de Baltard. Et où le matin, les fêteurs viennent souvent achever leur plaisir en prenant une fête à l'oignon. On va dire que c'est une habitude qui a perduré jusque dans les années 60 ou 70. On venait du pavillon d'Ermenonville, les jeunes gens favorisés en smoking pour s'encanailler.
Oui, c'est vraiment sous
les forts des Halles.
C'est sous le signe de l'encanaillement et c'est l'étape ultime obligée dès le processus de rénovation, c'est-à-dire dès les années 1850-1860. Le Paris du 19e siècle, en plus, est très souvent comparé à un corps. Et donc, les halles sont le ventre, peut-être, mais plus souvent encore le cœur de ce corps-là. C'est là que la ville bat à des pulsations toute la nuit.
L'estomac et le cœur à la fois, en somme.
Voilà, c'est très polyvalent. Justement, la tolérance horaire qui permet d'aller un peu partout où on veut toute la nuit autour des halles, à favoriser cette volonté d'être en contact avec le peuple, de frissonner en observant
là,
les apaches.
Dans ces 10 pavillons affectés par Baltard à cet échange des denrées, on trouve toute une vie qui palpite plus que partout ailleurs en réalité dans Paris. C'est là que le mouvement est le plus actif, le plus continu. C'est dès minuit que les paysans des alentours affluent.
C'est vraiment un mouvement qui concerne toute la nuit. La fin de la soirée est marquée pour les observateurs parisiens par l'afflux des maraîchers qui arrivent avec leurs charrettes de banlieue. C'est un cortège lui aussi très ritualisé, comme tout ce qui touche à la nuit.
On trouve encore dans Ciboulette, l'opérette de Reynaldo Hahn dans les années 20.
Oui, mais je crois que ça a été assez continu en fait jusqu'aux années 1960.
Ça fait une grande différence,
cette ambiance. C'est un monde, enfin c'était un monde dans Paris.
Et avec aujourd'hui, la grande différence, c'est qu'effectivement, sous la Ve République commençante, on a transféré à Rungis, les halles, et que ça a changé complètement une grande partie de la vie nocturne à Paris.
Il me semble qu'il y a toujours la très mauvaise réputation du quartier, notamment nocturne, mais fondée sur des logiques commerciales évidemment tout à fait différentes.
Fausse permanence.
Voilà, fausse permanence si vous voulez. À l'époque, en plus, l'essentiel du discours tient, là encore, dans une confrontation entre les diurnes innocents que seraient les paysans, les maraîchers qui viennent vendre leurs denrées dans le quartier, et puis une population plus interlope qui gravite autour d'eux. Et c'est aussi l'idée que c'est un monde autonome, avec sa propre langue, ses mœurs tout à fait spécifiques, le tout étant constamment pris dans une logique de recyclage qui est très propre aux manières dont on décrit la nuit au XIXe siècle, c'est-à-dire que à l'aube, les maraîchers quittent Paris en emportant les boues de la ville qui ont été entre-temps ramassées par les balayeurs, les vidangeurs, les éboueurs, les chiffonniers, et ces boues qu'ils emportent avec eux en partant à l'aube vont fertiliser les champs. Enfin bon, voilà.
Oui, c'est là on retrouve toute l'obsession du XIXe siècle en face de l'égout, en face de l'excrément. En face
oui,
de,
l'obsession de l'organique, oui, ça, c'est très nocturne aussi.
Il s'agit de porter la lumière purifiante sur le grouillement obscur de la capitale. Et là joue un rôle aussi la figure du chiffonnier.
Oui, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, était un personnage très fascinant pour moi, parce que il est porteur de toutes les ambivalences qu'on évoquait tout à l'heure au sujet du rôdeur de nuit, dans sa silhouette. Vous voyez, c'est un petit peu le Père Noël est une ordure, hein, puisqu'il a une hotte en osier, il a un crochet dont on se demande à quoi il peut servir en dehors de la simple récupération des ordures.
Et que... Salut à Gérard Jugnot.
Salut à Gérard Jugnot, oui, bien sûr. Et donc, le chiffonnier est en plus l'objet d'inquiétudes sanitaires évidentes, d'où la réglementation qu'on lui impose, la volonté d'arrêter ses circulations nocturnes dès les années 1828-1830. Parce qu'on pense qu'il peut contaminer toute la ville, et notamment au moment de l'épidémie de choléra de 1832, en déplaçant les ordures comme ça d'un endroit à l'autre. Et on le soupçonne constamment d'être un voleur, un agresseur en puissance. Souvent, ce sont de vieux ouvriers. Là encore, la part du mythe et de la réalité est difficile à faire, mais ce sont de vieux ouvriers recyclés dans ces activités, peut-être moins éprouvantes à la fin de leur vie. Mais la réglementation s'appesantit sur eux, et on essaie de les sédentariser au cours du second 19e siècle, de les normaliser là encore.
Avec d'autres professions voisines, celle du balayeur, nous avons déjà vu passer, et puis plus repoussant encore, peut-être au bas de l'échelle, atteignant le comble du quasi inavouable, le vidangeur.
Alors, le vidangeur, c'est un personnage moins central dans les descriptions de l'époque. Il est davantage contrôlé par la municipalité. Il n'a pas cette indépendance individuelle qui est celle du chiffonnier. Le chiffonnier, on a toujours l'impression qu'il braconne, enfin qu'il traite les rues de Paris comme les paysans traitent les communaux, c'est-à-dire comme un lieu de récupération, de débrouillardise. Les vidangeurs sont quand même beaucoup plus contrôlés. contrôlés, font moins peur. Alors là, l'angoisse se reporte sur la voiture qui les transporte, qui est constamment montrée comme une sorte de monstre fantastique avançant à grand bruit d'ailleurs dans les rues de Paris. Ça n'a pas le côté quand même obsessionnel qu'ont les discours sur les chiffonniers.
Là, c'est moins le bruit qui est en cause que l'odeur.
Oui, et la transmission des miasmes, certes, mais il n'y a pas ce côté errance individuelle, vagabondage, silhouette un peu douteuse qui enveloppe toujours la vision du chiffonnier.
Et puis, il faut dire un mot du monde de la prostitution que nous avons évoqué en passant. C'est une autre forme dans l'obsession des contemporains, des observateurs sociaux, par exemple, le fameux parent du Châtelet. Une autre forme d'égout séminal. Et alors, écoutons Berthe Silva sur les poupées de minuit. Elle chante en juin 1932.
Voici minuit, c'est l'heure de la fête. On chante, on rit dans le grand cabaret. Le blond champagne a fait tourner les têtes. Minuit, minuit, chasse tous les regrets. Dans un tango, voyez Suzon la blonde, les yeux perdus dans un rêve vainqueur. Puis ces loulous dont les épaules rondes d'un argentin font tressaillir le cœur. Et chaque homme suivant son désir choisit le joujou de son plaisir. Les poupées de minuit sont de petites femmes qui vont insouciantes et cachent dans la nuit le secret de leur âme. Esclaves des baisers, on les voit se griser. Ce sont de beaux joujoux qu'on achète une nuit. Les poupées de minuit, joujoux d'amour dans les mains inhumaines, se brisent vite et l'on vit certains soirs. Loulou poli et sa beauté de reine, presque flétrie et faisant peine à voir. Jo l'a laissée et dans son cœur de femme, un gros chagrin la mine lentement. Ce bel amour, c'était toute sa flamme, et maintenant elle rit des serments. À tous ceux qui jurent de l'aimer, elle dit le cœur triste et fermé. Les poupées de minuit sont de petites femmes qui vont insouciantes et cachent dans la nuit le secret de leur âme. Esclaves des baisers, le cœur triste et blasé, ce sont de beaux joujoux que l'on brise une nuit. Les poupées de minuit.
Le secret, l'ombre, l'inquiétude entourent dans cette chanson, comme dans la réalité du 19e siècle, Simone de Lattre, les prostituées, les filles de noces, les filles de joie. Et elles obsèdent, bien sûr, l'ordre public.
Oui, là aussi, c'est un personnage un petit peu obligé du paysage nocturne. Alors, plutôt sous la forme de la prostituée clandestine, d'ailleurs, que de la prostituée en carte, de la fille soumise, de la fille tolérée et contrôlée sanitairement par la préfecture de police, comme ça existe à l'époque. En écoutant ce qui est là une chanson réaliste de l'entre-deux-guerres, qui sans doute nous amène plutôt dans le quartier de Montmartre, ou je ne sais pas, sur le boulevard de Rochechouart, c'est-à-dire une période qui n'était pas exactement la mienne.
Mais une permanence.
On pense aussi au défilé des filles sur les boulevards extérieurs, de plus en plus inquiétantes à mesure que les heures passent dans Nana. Souvent au XIXe siècle, Il y a une espèce de hiérarchie des filles qui fonctionne géographiquement et selon les horaires aussi. En bout de nuit, les pierreuses, c'est-à-dire les prostituées clandestines, trop peu appétissantes pour s'exposer, du moins dans la description de l'époque, pour s'exposer sur le boulevard dans les lumières artificielles de la soirée. Et donc plus on avancerait dans la nuit, plus les filles baisseraient les tarifs et plus on irait aussi vers les endroits périphériques, et bon. Plus on s'enfoncerait dans la nuit, plus on aurait des prostituées de bas étage.
De moins en moins cher, de plus en plus inquiétant, y compris pour les divinaires.
Voilà, et on a très souvent, avec l'arrière-plan, effectivement, qu'est l'angoisse sur le péril vénérien, on a la même tendance à la hiérarchie parmi les criminels nocturnes, notamment dans les descriptions qu'en fait Maxime Ducamp, dans Paris, ses organes, ses fonctions et sa vie. Donc là, ça paraît à la fin ça commence à paraître à la fin du Second Empire. Plus on s'enfonce dans la nuit et plus les criminels seraient sanguinaires, le pire étant l'escarpe, c'est-à-dire celui qui peut vous égorger pour quelques sous. Mais c'est un siècle qui croit beaucoup, on le sait bien, au mimétisme entre l'individu et le milieu dans lequel il évolue. Donc lorsqu'on est nocturne, on a l'âme sombre aussi, comme par une espèce d'affinité naturelle.
On retrouve encore, comme ailleurs, Flaubert dans le dictionnaire des idées reçues, pour qui minuit constitue, je cite, la limite du bonheur et des plaisirs honnêtes, car tout ce qu'on fait au-delà est immoral, et notamment l'immoralité de l'appel à la prostituée.
Puis ça nous renvoie à ce que nous disions tout à l'heure sur la figure du bourgeois du Marais qui arrête tout à 10h, 11h, grand maximum.
La police est confrontée évidemment à ce désordre qu'elle doit à la fois tolérer et surveiller. On voit se juxtaposer, comme au XVIIIe siècle, une police de sûreté qui se faufile dans la nuit pour y piéger des proies précises et une garde qui a une apparence et un statut militaire ou paramilitaire et dont le réseau des patrouilles, des postes doit assurer le calme ordinaire. Oh, et le gay.
Alors là, c'est une histoire un petit peu technique, un petit peu fastidieuse, mais dont les grandes lignes sont intéressantes parce que le premier 19e siècle, avec des nuits qui sont encore peu fréquentées par les populations dites ordinaires, enfin du moins les plus exactement ceux qui ont le droit de vote, les groupes intermédiaires qui sont dans le corps électoral censitaire, on se contente effectivement d'une police de sûreté à la Vidocq qui infiltre les milieux criminels, mais en étant un peu de la même nature, puisqu'on a d'anciens forçats qui misent sur leur talent de repérage physionomique, etc. Et puis, un système en quelque sorte de couvre-feu au moins implicite, puisque ce sont les bottes des gardes nationaux, ou les bruits des sabots des chevaux de la gendarmerie royale, puis de la garde municipale, c'est-à-dire des troupes paramilitaires en quelque sorte, mais qui dépendent du préfet de police, qui assurent une surveillance plutôt liée d'ailleurs à la peur de l'insurrection et de l'attroupement qu'à autre chose. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que la nuit apprivoisée peut-être au cours du siècle, puisque des populations plus intermédiaires circulent davantage dans la ville, elles demandent une police ostensible la nuit, repérable, qui sorte un petit peu l'espace nocturne des logiques de contrôle militaire qui étaient les siennes au début du siècle.
Donc, on arrive à l'îlotier, et à la fin, on voit apparaître les fameuses hirondelles à bicyclette qui explorent silencieusement les rues sans allumer leur lumière.
Là, c'est plus caractéristique de la Belle Époque, effectivement. Et entre-temps, on aura eu un système sous le Second Empire, toujours très soucieux de quadrillage et de rationalisation, on aura eu un alignement de la surveillance nocturne et de la surveillance diurne avec un système d'îlotage. La journée de 24 heures est découpée en 3-8, en quelque sorte, et chaque quartier est parcouru par deux agents, jour comme nuit, ce qui a été un indice important pour moi de normalisation, effectivement, au cours du territoire nocturne, au cours du second 19e siècle.
Même si aujourd'hui encore, le débat sur les avantages et les inconvénients de la police de proximité se déploie à peu près comme à l'époque.
Oui, je crois qu'on a un système spécifiquement nocturne. En plus, actuellement, je suis loin d'être spécialiste, mais qui est l'intervention de la BAC, qui est une brigade plus nocturne que diurne, hein, si je ne m'abuse. Le cas des hirondelles est bien
un cas intermédiaire,
effectivement, parce que il faut certes qu'il puisse être vu par les passants qui sont rassurés sur le souci de sécurité qui est celui des pouvoirs publics. Et en même temps, grâce au silence de la bicyclette, ils surprennent. Ils sont ostensibles et discrets. crée en même temps. Et entre-temps, on a déjà inventé quelque chose d'assez cocasse dans le domaine de la discrétion sous la monarchie, enfin la fin de la Restauration et sous la monarchie de Juillet, c'est-à-dire une voiture dont les roues étaient couvertes de feutres pour ne pas surprendre trop rapidement les voleurs. À l'inverse, les gardes nationaux, qui sont des bourgeois projetés dans la nuit en quelque sorte, une milice citoyenne, mais pas forcément très très volontaire, on leur reproche de faire du bruit volontairement avec leurs bottes pour faire, on les surnomme les trouilles, les patrouilles, pour faire fuir les rôdeurs avant de les surprendre.
Toujours cette dialectique qu'on retrouve dans votre Nuit du 19e siècle, Simone Delatte, tout au long, entre le bruit et le silence, entre la nécessité de se montrer pour assurer l'ordre et de se cacher pour réussir à débusquer les personnages qui risqueraient de mettre cet ordre en cause. Je voudrais que nous terminions cette conversation avec un effet de boucle par rapport à son début, puisque je vous ai fait entendre tout à l'heure des Augiers Paris à 5h du soir. Voici maintenant toujours des Augiers, à la fin du premier tiers du 19e siècle, Paris à 5h du matin, interprété par Marc et André, cette fois-ci en 1960.
L'ombre s'évapore et déjà l'aurore de ses rayons d'or, les toits d'alentour. Les lampes pâlissent, les maisons blanchissent, les marchés s'emplissent. On a vu le jour de la Villette dans sa charrette, Suzon brouette ses fleurs sur le quai. Et de Vincennes, Gros Pierre amène ses fruits que traîne un âne efflanqué.
Déjà la fruitière, déjà l'écaillère,
déjà l'épicière saute à bas du lit.
L'ouvrier travaille,
l'écrivain rimaille,
le fainéant baille
et le savant lit. J'entends Javotte portant sa haute crier « Comme Panet, chou-fleur !» Perçant et grêle son cri se mêle à la voix frêle du noir amoneur.
L'huissier carillonne, attend, jure, sonne, ressonne.
Et la bonne qui l'entend trop bien, maudissant le traître du lit de son maître, prompt à disparaître, regagne le sien.
Touché, Hortense est en cadence, on chante, danse, joue, etc.
La diligence part pour Mayence,
Bordeaux, Florence, ou les Pays-Bas.
Adieu donc mon père, adieu donc ma mère,
adieu donc mon frère,
adieu mes petits.
Les chevaux hennissent, les fouets retentissent, les vitres frémissent, les voilà partis.
Dans chaque rue, plus parcourue, la foule a cru, grossit tout à coup.
Seigneur Valtaille,
bourgeois canaille,
vieillard marmaille, abonde partout.
À quelle crue, ma tête est perdue, moulue et fendue, où donc me cacher? Jamais mon oreille n'eut frayeur pareille. Tout Paris s'éveille. Allons-nous coucher.
Vous observez la continuité avec « Il est 5 heures, Paris s'éveille » de Jacques Lanzmann, célèbre chanson interprétée par Jacques Dutronc beaucoup plus récemment. Simone Delattre, merci. Votre livre s'intitule « Les 12 heures noires, la nuit à Paris au 19e siècle ». Elle a été publiée chez Albin Michel en 2000 et vient d'être rééditée en poche ou en semi-poche. Donc accessible très aisément. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, avec la collaboration d'Agnès Chauveau, et avec Patrick Molinier, Gilles Gaillard, Yaël Mandelbaum, Meryl Moneghetti, Virginie Lebrun et Véronique Jolivet pour les Archivinats.